Sur Radio Prévert, nous vous retrouvons avec plaisir. Quand je dis nous, c'est que je suis bien sûr avec Michel Baudet. Bonjour Michel.
Bonjour Jocelyn.
Présidente du Souvenir français de la Flèche.
Oui.
Merci d'être là, fidèle à ce rendez-vous qu'on a pris avec les auditeurs, et on leur a dit qu'il y aurait une série qui marquera les 80 ans de la libération. On est en plein dedans de cette commémoration.
C'est l'année.
Et on a inauguré cette série avec un monsieur.
Oui, monsieur Domain, qui nous a fait un témoignage important, voilà. Et on poursuit justement aujourd'hui avec un autre monsieur, monsieur André, qui lui va nous parler de son enfance et quelques années d'enfance qu'il a passées à côté de la gare de la Flèche, où il a vu plein de choses.
Bonjour Bernard André.
Bonjour monsieur.
Bienvenue sur Radio Prévert.
Donc je vais vous raconter mon épopée pendant la guerre. Je suis arrivé à la Flèche chez mes grands-parents qui habitaient au 38 boulevard à petite vitesse, c'est-à-dire juste derrière la gare, marchandises, en 1941. Et à cette époque-là, les Allemands évidemment avaient envahi la Flèche depuis un bon moment. Et juste devant la maison de l'autre côté de la rue du boulevard à petite vitesse, sur un wagon plateau, ils avaient installé une DCA avec une tourelle tournante, ce qui pouvait s'orienter du côté d'arrivée des avions, parce que tous les jours ou presque, les avions venaient mitrailler ce qu'ils pouvaient trouver à la Flèche. Alors voilà, autrement, qu'est-ce que je peux dire? Fallait pas les regarder trop. Et puis, un soir que mes grands-parents m'ont envoyé dans une mansarde d'en haut chercher des pommes, j'avais allumé la lumière sans mettre le rideau. Et dès que j'étais descendu en bas, il y avait une patrouille allemande qui était arrivée avant moi, avec leur casque, leur collier là, et leur mitraillette. Ils m'ont fait savoir qu'il fallait pas, je comprenais pas trop ce qu'ils nous disaient, mais on a bien compris qu'il fallait pas allumer la lumière. Le 6 juin, le débarquement. Et je peux vous dire que le matin du 6 juin, au débarquement, de la Flèche, on entendait énormément le bruit. Un bruit sourd sur la côte normande, ça s'entendait de la Flèche. C'était un roulement continu de bruit. C'était le bruit de tout ce qui se passait sur la côte normande. Et ça s'entendait énormément de la Flèche.
Et vous réalisiez ce qui se passait? Qu'est-ce que vous vous disiez?
Moi j'étais jeune.
Vous aviez quel âge en
44, 13 ans. Au bord, je doutais que c'était ça, je me doute.
Vous en doutiez?
Oui, on s'en doutait fortement.
Vous l'espériez, cette action-là?
On ne savait pas trop. Moi, j'étais jeune, je ne pouvais pas suivre ça de près, comme maintenant.
Je trouve que c'est quand même assez impressionnant de penser qu'à la Flèche, on entendait le bourdonnement des avions, des chars, de toute cette armée qui débarquait, vu les kilomètres quand même qui nous séparent de la côte. Quoi.
À vol d'oiseau, ça fait quoi? 150 kilomètres, c'est tout, hein.
Oui, c'était
un grondement qui s'entendait énormément bien, je vous garantis. Alors, ce qui s'était passé aussi en juin 1940, moi j'étais pas à la Flèche, mais les Allemands avaient bombardé la gare. Et il était tombé des bombes, boulevard de la République, sur le boulevard de la Petite Vitesse, dans le groupe des maisons qu'il y avait mes grands-parents, là, il y avait trois maisons, et il était tombé une bombe chez des marchands de charbon, un à droite, l'autre à gauche, de chaque côté des trois maisons. Elles auraient été écrasées si ça tombait là.
Décidément, ces maisons, elles étaient protégées. Pas d'explosion avec le wagon de munitions, pas d'explosion avec les bombes.
À ce moment-là, il y avait un monsieur qui travaillait dans... Il y avait un monsieur qui travaillait dans... sur la gare, qui débarquait du parquet dans un bat du parquet des bois, du parquet quoi, en bois pour une scierie qu'il y avait à côté là, et il a eu tellement peur c'était en 1940 quand les Allemands ont bombardé, les deux bombes que je vous expliquais qui ont tombé de chaque côté,
ouais.
Et il a eu tellement peur qu'il est venu se cacher chez mes grands-parents. Il est venu se cacher sous l'escalier. Ça avait ouvert des portes. Et puis, le bombardement a provoqué une chute de plâtre au-dessus de l'escalier où il s'est trouvé dessous l'escalier. Ce qui fait qu'il s'est sauvé. Il a pris la blouse d'escampette. Il s'est sauvé dans le fond du jardin à 100 mètres. Et il voulait aller dans le pré. Il y avait un pré, là. C'était au mois de juin. Il y avait un pré. Mais mon grand-père, pour aller dans le pré, il avait coupé du grillage et puis il raccrochait comme ça, tout doucement. Et ce qui fait ce monsieur-là, il n'a jamais pu trouver pour pouvoir passer. Et heureusement, parce que peut-être dans les minutes qu'on suit, il est tombé une bombe, juste comme il dit, à l'endroit où je voulais me cacher.
Et ça, c'est votre grand-père qui vous a raconté ça ?
Ah oui, c'était véridique. Hein. C'était véridique.
Puisque vous dites que vous êtes arrivé à la Flèche en 1941.
Oui. Ah ben ça m'a été raconté parce que j'étais pas là. Oui,
exactement. Oui.
C'était en juin 40 quand les Allemands ont bombardé la gare.
Et qu'est-ce que...
Et ce monsieur-là, il s'appelait Monsieur Monteau. Monsieur Monteau, son épouse, était couturière à côté de la maison de la famille Bizot qui a été déportée.
D'accord.
Oui, la famille Bizot qui a été déportée. Madame Monteau, elle était couturière, juste à la maison qui touchait derrière. Et
d'accord.
Et ce monsieur-là qui s'était affolé, c'était son mari. Alors à propos de la famille Bizot, puisque j'en parle,
oui.
Ça je l'ai vécu. J'allais, je pense que c'était un matin, j'allais au catéchisme, on allait au catéchisme à la Providence, à l'époque. Et c'était une demoiselle Poirier qui nous faisait le catéchisme, que les parents étaient marchands de vin, boulevard de la Petite Vitesse dans le temps. Et je me souviens très bien, quand je suis passé devant la maison de la famille Bizot, c'est le jour où la Gestapo est venue les chercher. Et je me rappelle très bien, je suis passé là, on n'entendait pas grand bruit, mais il y avait, dans la rue, il y avait le cheval avec un diable qui transportait un arbre, parce qu'il travaillait dans ce monsieur-là, ce chartier-là, il travaillait dans une scierie qui était à Tournebride.
D'accord.
À Tournebride. Et le chartier, quand il a entendu la famille Bizot qui criait au secours ou des trucs comme ça, il a voulu y aller, mais la Gestapo, ils l'ont tué. Et quand je suis passé, ce monsieur-là était allongé sur le trottoir avec une couverture dessus. Moi, je ne me suis pas arrêté, puis je n'ai pas trop compris ce que c'était à l'époque, mais c'était ça.
Oui, c'est vrai que quand on a 13 ans, c'est pas...
Je suis passé à ce moment-là, le cheval était dans la rue avec le diable, il attendait. Il attendait rien, c'est fini.
Et ça, vous avez eu vent de ce genre d'histoire dans la Flèche, ce qui est arrivé de similaire à d'autres personnes
Les Bizot, ça c'était connu dans le quartier, c'était pas très loin, c'est tout de suite à côté du passage à niveau, enfin, anciennement. Et justement, ils avaient raflé les parents, les deux filles, je crois, et ce jour-là, il y avait un fils, Bizot, il était parti à la messe à Sainte-Colombe. Et puis quand les Allemands les ont chargés dans les voitures, qui les ramenaient au niveau du carrefour de la Boirie, là oui, je dis bien, qui va vers la Redude, il y a une des sœurs, Bizot, qui a dit, tiens, voilà mon frère, il revenait de la messe à pied. Eh bien, les Allemands, c'est là qu'ils l'ont. Ils se sont arrêtés et ils l'ont ramassé. Ça, il n'aurait pas été pris. Hein. Et fils Bizot, ça c'est véridique.
Alors Bernard André, vous nous racontez vos souvenirs et puis... les choses qui vous ont été racontées aussi par...
Il y en a, oui. Il y en a que j'ai vécu de mes yeux, mais c'est sûr.
Par votre grand-père, en l'occurrence. Est-ce que c'est avec lui, essentiellement, que vous discutiez, que vous parliez de tout ça?
Mon grand-père, mon oncle aussi, qui habitait la maison à côté.
Votre oncle maternel, paternel?
Le frère de mon père. Il était un petit peu plus jeune. Mais lui, il s'était trouvé démobilisé en 40... Je ne sais plus pourquoi, il n'a pas vécu ni prisonnier, ni rien. Il avait été démobilisé chez lui, comme beaucoup d'autres. Hein. Tout ça n'avait pas été fait prisonnier.
Et quel était l'état d'esprit familial à l'époque et comment vous vous positionniez par rapport à ce qui se passait à la Flèche à l'époque?
Vous savez, moi j'allais à l'école tous les jours. Et alors, l'école, à l'époque, on ne parlait pas de ramassage scolaire. Hein. On allait du boulevard à petite vitesse. Moi, j'allais à l'école au centre, chez Fellmann.
D'accord, rue Pape Carpentier.
Oui, rue Pape Carpentier. tout le monde dans le coin, même des petits gars qui venaient de Tournebride, de la route de Beaugée, ils allaient à pied, il n'y avait pas de ramassage scolaire. On rentrait le midi et on partait pour 2 heures. Et on rentrait le soir. Ben, on faisait de la marche à pied, ça ne nous a pas tué. Hein. Voilà. Alors, ce que je peux raconter d'autre, quand les Américains sont arrivés...
Oui, ça c'était à quelle période, vous vous rappelez?
Ah ben oui, quand ils sont arrivés, c'était le 10 août à la Flèche. Le 10 août. Alors, ce qui s'était passé... Le 8 août
44.
Le 10 août 44, c'est quand la rentrée des Américains à la Flèche. Alors, ce qui s'est passé juste avant, c'est-à-dire le 8 août, c'est le déraillement du train qui a été organisé par M. Chartier et M. Mogodet, deux cheminots de la Flèche, qui avaient été, la veille au soir, déboulonner des rails, un rail, ça suffisait un seul d'un côté, et ce qui fait que quand les convois de munitions et de matériel venaient pour défendre sur la Flèche et puis sur le Mans, éventuellement, ils n'ont pas pu aller plus loin. Et pareil, il y avait quatre trains qui suivaient. Donc le premier a déraillé dans la nuit du 8 août. Alors, les Allemands, je connais un petit monsieur qui habitait à côté du pont. Il y a un pont de pierre, là.
Oui.
C'est monsieur Rimbaud. Il avait 5 ans. Et il me dit... Et ça s'est passé dans la nuit, peut-être vers 2h du matin, le déraillement. Il me dit, il fallait voir comme ça gueulait. Il dit, moi, avec ma mère, il ne m'a pas parlé s'il y avait son père ou pas, il m'a dit, avec ma mère, on s'est sauvés dans les bois de l'autre côté pour échapper à ça, parce qu'on avait peur qu'ils nous prennent en otage ou des trucs comme ça. Donc, le train a déraillé, il y a des photos qui ont été faites partout. Et après, après le 10, quand les Américains ont libéré la Flèche, il y avait un défilé permanent, surtout le dimanche, de gens à pied, parce que les voitures à cette époque-là, il n'y avait pour dire pas, tous les gens montaient à pied là-bas, ça fait un bout, pour monter dans les bois là-haut de la Flèche, pour aller voir le déraillement. Il y avait un monde considérable, surtout le dimanche, je me rappelle bien.
Et les Allemands, on ne les voyait plus.
Ah ben ils n'étaient plus là, ils sont sauvés rapidement dans la nuit. Ils sont même partis de la Flèche, il y en a qui avaient emprunté le corbillard, la Flèche. C'est assez connu ça.
Oui, on en a entendu parler.
Oui, il y a une carte postale qui a été créée. Oui.
Ils sont partis, et tout ce qu'ils leur trouvaient sous la main, ils sont sauvés, on ne les a pas. Ils ont ennuyé personne.
Et les Américains, vous leur avez fait la fête ?
Alors les Américains sont arrivés. Moi, je me rappelle les jours qu'on suivit le 10 ou le 10 août, quoi, les 11, 12, 13, 14. Pendant 8 jours, on allait les voir passer tous les jours au rond-point de la Boirie. Il y avait un monde considérable, surtout des gamins, beaucoup, et ils passaient des chars et des voitures et des jeeps. Pendant 8 jours, ils prenaient. Alors, il y en avait qui étaient vers le centre-ville, moi j'étais pas, moi j'étais au rond-point de la Boirie. Et là, ils prenaient la route du Lude, la route de Tours. Ça passait pendant 8 jours. Alors, ce qu'on faisait, ce qu'ils aimaient beaucoup, c'était les tomates. Les gamins, on leur envoyait des tomates. On prenait des tomates au jardin, et puis on leur envoyait des tomates. Eux, ils envoyaient des chewing-gums, des cigarettes, tout ce qu'ils avaient dans leur ration, des trucs de ration, des trucs comme ça, mais les gens sautaient dessus. Hein.
Ah oui, ça existait. Et les tomates, ils les mangeaient à pleine bouchée.
Ah bah oui, ils mordent dedans. Hein. Ah oui, oui.
Donc c'est pas une légende, ils jetaient vraiment les chewing-gums, parce qu'on en a toujours entendu parler. Mais donc, c'était pas une légende, ils vous jetaient des chewing-gums. C'était une découverte pour les enfants.
Oui, ils mordaient dans les tomates. Dès qu'on leur lançait, ils attrapaient ça. Hein.
Et vous, les chewing-gums, vous connaissiez avant ?
Pas du tout, non.
Ah non.
Non.
Et
non,
non. Donc c'est avec les Américains.
C'est là qu'on a découvert un peu, oui.
Alors
ça, et puis même certains les cigarettes.
Ah. Et vous dans tout ça, Bernard André, chewing gum, cigarettes, vous êtes où dans cette histoire-là?
Oh ben vous savez, on n'allait plus à l'école après. Hein. Après le 10 août, il n'y a plus eu d'école. Hein. Ça s'est arrêté. Moi, je me rappelle, c'était presque les vacances. Puis même avant, moi, mes grands-parents. C'était le jour du 6 juin, on avait avec les trois maisons qui se touchaient là, et ces voisins-là, on avait trouvé sur la route de Fougeray en campagne une grande longère pour pouvoir se loger, parce qu'on avait peur de rester trop longtemps dans le quartier de la gare.
Oui,
on était. C'était terrible. Alors, autrement, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ?
C'était terrible, disiez-vous. Et je vous demandais tout à l'heure quelles étaient vos espérances, malgré le contexte qui était lourd. Vous y croyiez ?
Ah bah oui, ça, on voyait que c'était définitif. Hein. On se doutait bien que les Allemands n'allaient pas revenir. Hein. C'était pas possible. Vu l'armada qui débarquait, tout le matériel et tout. Enfin, quoi qu'ils soient encore défendus bien longtemps après. Hein.
Et avant ça, vous étiez toujours dans cet état d'esprit ou alors vous êtes passé par des moments où vous vous disiez, bon, on va...
Vous savez, quand on est jeune, on réfléchit pas beaucoup. Hein. Moi, on allait à l'école.
C'est tout.
Tout.
Vous aviez pas conscience
et de... Et puis, on était disciplinés parce que, par exemple, si les Allemands vous trouvaient à deux sur un vélo, et ils vous faisaient descendre.
Ah.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, j'ai connu deux petites dames, deux jeunes filles à l'époque, rue du collège, elles s'étaient fait descendre de vélo parce qu'elles étaient deux sur le vélo.
Il leur est rien arrivé d'autre, juste descendre du vélo et puis c'est tout. Hein.
Ah oui, après, s'il vous fallait obéir, hein, il n'y avait pas le choix. Hein.
Ils étaient vraiment agressifs ?
Sur la flèche, on ne se rendait pas compte, nous. Peut-être avec certaines grandes personnes qui étaient plus agressifs, ils ont été plus agressifs avec des gens qui ont été déportés, comme le docteur Lost, et puis d'autres, hein, beaucoup, il y avait plusieurs déportés à la flèche. Enfin, nous, à l'époque, on ne connaissait pas ça. Hein.
Et vos parents, vos grands-parents, vous donnaient des conseils, des consignes ?
Vous savez, je ne me rappelle pas trop, mais on se tenait tranquille, hein. Ça ne se compare pas avec ce qui se passe aujourd'hui. Hein.
Il fallait filer droit.
Oui. Alors, ce que je peux raconter aussi, c'est qu'en 1944, après le mois d'août, c'était peut-être au mois de septembre, après la libération, j'avais un copain dans la rue. Enfin, j'avais beaucoup de copains à la flèche, évidemment. Mais parmi eux, il y avait un nommé monsieur qui s'appelait Lieferman, Jean Lieferman. Et c'était le fils d'un prof du Britannet, M. Lieferman, qui a été maire de la Flèche à la Libération. À la Libération, c'était M. Jean Lieferman qui était maire de la Flèche. Et je connaissais bien son fils. Et puis voilà qu'un jour, il vient me trouver, on est monté. Alors les Allemands étaient partis bien sûr, c'est après le 10 août. On est monté par-dessus les balustrades là, de la route là. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Qu'est-ce que j'ai trouvé, moi ? J'ai dû y aller tout seul le premier coup. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Un obus. Un obus qui faisait peut-être 2 kilos. Alors ça avait la forme d'une balle au bout d'une douille, si vous voulez, mais c'était beaucoup plus gros. Alors j'ai appelé le petit gars Lieferman, il est venu avec moi. On a attrapé le truc. On l'a balancé par-dessus les balustrades, sur le bord de la route.
Ah.
Heureusement, ça n'a pas bougé.
Ah oui.
Parce qu'il pouvait ne pas être désamorcé.
Il me dit, je l'emmène à mon père. Alors il s'est chargé de le prendre, il l'a emmené à son père qui habitait pas très loin de chez moi. Quand son père a vu ça, il a dit, mes petits gars, qu'est-ce que vous avez touché là ? Il a fait venir des artificiers du Britannet qui l'ont fait sauter dans le pré derrière les maisons de boulevard à petite vitesse, il y avait un grand pré là. Il a sauté, ça fait un cratère grand comme la table.
Et vous avez jamais pensé, en le prenant, en cet obus, qu'il pouvait exploser ?
Ah non, on savait pas trop ce que c'était là.
Oh, c'est impressionnant.
Ça avait comme une balle, ça avait la forme, c'était pointu,
oui, oui.
Comme une balle au bout d'une douille,
ogive, oui.
Mais c'était beaucoup plus gros.
Bah oui.
Et apparemment, il y avait une charge à l'intérieur, et c'était les Allemands qui avaient laissé ça. Ça avait été laissé sur la voie où il y a les wagons, là. Pour avoir sauté, ça avait sauté, on avait été voir le trou après, on s'est dit, dis-donc, neige pas belle, son père, il n'en revenait pas. Il nous avait violés.
On s'en doute bien.
On s'en doute bien, bien que là.
J'ai raconté beaucoup de choses.
Alors, il y a quelque chose que vous pourriez également nous raconter, puisque vous parliez de l'épisode du déraillement du train, et oui. Moi j'aimerais que vous racontiez aussi aux auditeurs que vous avez travaillé dans ce secteur-là du ferroviaire quelques années après.
Oui, quelques années après, je suis rentré à la SNCF en 1949. J'avais 17 ans et demi quand je suis rentré. Et j'étais à Sillé-le-Guillaume. Après, j'ai fait des... Quand ils nous faisaient rentrer comme ça, ils nous mettaient sur le tas pendant 6 mois. Mmh. Et puis après, on allait au cours. Alors j'ai été au cours à Rouen pendant 3 mois. Il fallait apprendre toute la comptabilité, marchandises et tout. Voyageurs, circulation des trains, on apprenait tout de A à Z. pendant 3 mois et demi au moins. Et puis après, quand je suis revenu, mes parents n'habitaient plus le Mans. Mon père avait été, comme il était dans la banque, il avait monté en grade, il était nommé sous-directeur à Châteauroux. C'est là que, quand je suis revenu des cours, je n'ai pas pu reprendre à Sciel Guillaume. Ils ont bien voulu me mettre à la Flèche comme j'avais mes grands-parents à la Flèche. Ce qui fait que j'ai travaillé à la gare de la Flèche de 50 à 53. Mais pendant ce temps-là, à 51, je suis parti, avril 51, je suis parti au régiment. On était la première classe qui faisait 18 mois. L'avant, c'était qu'un an. Et je suis rentré qu'en octobre 51. Avril 50, octobre 51. Et j'ai toujours repris à la Flèche. Alors, après, ça s'est passé jusqu'à... J'ai fini en 54, j'ai dû monter en grade, j'ai été nommé à Sablé. Pendant ce temps-là, j'avais connu mon épouse, et puis en 55, j'ai arrêté la SNCF pour changer de métier, comme on fait maintenant, beaucoup plus que dans le temps.
Et à l'époque où vous travailliez à la SNCF, est-ce que ça s'appelait comme ça à l'époque aussi?
Oui.
Ok. Est-ce qu'il y avait des stigmates période?
Alors, je ne travaillais pas à la gare que vous voyez, le bâtiment qui est tout muré maintenant et tout.
Oui.
Moi, j'étais au service marchandises, et le service marchandises, il se comportait d'une grande halle en béton qui faisait plus de 100 mètres de long, et il y avait des bureaux. Tout un bureau autour où on était 7 à travailler pour le traitement des wagons, des colis, de tout.
Est-ce que, quand vous y travaillez, vos collègues vous ont parlé de l'impact de la guerre sur le secteur du ferroviaire? Est-ce qu'il y avait des choses à remettre en état? Est-ce que ils vous en ont parlé quelques années après? Est-ce que vous avez entendu des choses?
Dans les années 1950, on parlait plus tellement de la guerre.
C'était loin de vous, ça?
Loin, oui et non. Mais il n'en était plus question.
On était passé à autre chose.
Oui.
On était passé peut-être à la reconstruction.
Exactement.
Ben oui, tout ça. Alors ce qui s'était passé aussi, ce que je peux raconter aussi, c'est que quand les Américains sont arrivés, je reviens en arrière là, mois d'août.
Ok, on va faire un petit montage, puisque c'est dans le désordre.
Ils arrivaient par la rue Saint-Jacques, ils arrivaient place Henri IV. Et de la place Henri IV, il y en allait soit du côté du Mans, par la place Thiers, là-bas, soit à Tours, là, par la Boirie. Mais à l'époque, les ponts et chaussées avaient interdit les chars de passer sur le pont de la République.
Ah oui.
Parce qu'ils étaient trop lourds, soi-disant trop lourds. Alors, 35 tonnes, je pense, les Sherman, des trucs comme ça, dans les 35 tonnes et tout. Et bien, maintenant, vous voyez des convois exceptionnels qui passent sur le pont, des camions qui se croisent à 2 ou 3, il y a plus de 100 tonnes sur le pont, ça passe. Moi, je dis un séjour, il n'est pas... Regardez-le de près, si vous allez par là, vous passez en dessous le pont, sur la promenade qui est le long du Loir, vous allez voir, il n'est pas épais par endroit. Et c'est un pont qui a été fait après la guerre de 14. Il avait été commencé, et je sais que quand les ouvriers étaient partis le soir, tous les gamins du quartier allaient jouer dans des coffrages en béton. C'est un pont qui est fait en béton et en béton armé. Ça faisait des cases, ils jouaient à cache-cache là-dedans. Il y avait le père à Michel Daumin, il y avait mon père, puis des gars de Sainte-Colombe. Ils se faisaient rigoler parce qu'ils jouaient là-dedans.
Mais ça m'étonne pas.
Alors maintenant, vous voyez, ils passent des convois exceptionnels qui font peut-être 100 tonnes, ça passe. J'ai grand peur qu'un jour, ce pont-là, ils en parlent beaucoup des ponts en ce moment, hein, partout, oui. Ils s'effondrent.
Bon, on croise les doigts
On croise les doigts, celui de la Flèche, voilà. Tient le coup.
Et enfin, c'était interdit, les chars n'avaient pas le droit, il n'y a aucun char qui a passé là-bas. Enfin, ils passaient tous par la Providence.
Ils passaient par la rue de la Boirie,
les
chars, pour rejoindre la route du Lude. Et elle était assez large, cette route.
Ils passaient, la preuve. Ils sont passés pendant des jours et des jours et des nuits. Ah oui. Il y en avait du matériel, là.
Chronique de ces années.
Ils passaient tout cela. Rien n'a passé par le pont de la République, c'était interdit.
La grande histoire qui s'entremêle avec la petite histoire, on entend les bruits de bottes, les chars qui passent dans les chemins, dans le secteur de la Flèche, des souvenirs d'enfants, de jeunes hommes. Et ce jeune homme aujourd'hui, il a 93 ans, bien compté, Bernard André.
Je vais les avoir après-demain.
Jeudi. Oh, jeudi, c'est son anniversaire.
Oui. Ah bah, ça ne se fait pas, mais on va vous souhaiter joyeux anniversaire.
Oui, oui. Un bon anniversaire, oui.
Et on est très content d'avoir recueilli votre témoignage sur cette période-là. Et quel message vous voulez laisser pour les jeunes générations aujourd'hui?
Faire moins de bêtises qu'ils font maintenant, surtout. Hein. Quand on voit ce qui se passe, aller tabasser des jeunes pour jusqu'à les tuer, c'est quand même un peu fort. Hein. Quelle que soit leur identité, ça ne devrait pas exister. Mais tout ça, c'est surtout les moyens modernes, les réseaux sociaux, tout ça. Moi, je ne connais pas, je suis... naufragé du numérique, je m'occupe pas de ça, mais je vois que ça apporte beaucoup de mal plutôt que de bien. Hein.
Il faut réenchanter quelque chose parce que les perspectives, selon vous, les perspectives qui s'offrent à cette jeunesse-là aujourd'hui, c'est...
Ça va pas être facile. C'est pas facile de revenir en arrière. Hein. Il y a tellement de mauvais plis qui sont pris depuis tellement longtemps. Je sais pas qui c'est qui va pouvoir régler ça. Enfin, je fais pas de politique.
Non, on parle de commémoration et on vous remercie d'être venu échanger avec nous, avec Michel Baudet, bien sûr, président du comité fléchois du souvenir français, avec d'autres personnes également, Michel, on va...
Oui, 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 on va avoir alors là, deux témoignages écrits que je pense nous feront lire par... Enfin, se voir avec la conseillère municipale, mais je pense que ça sera les jeunes du conseil municipal enfants qui liront ces témoignages. Mmh. Et puis, le 8 mai aussi, je récupérerai un témoignage de Fléchois. Et ça va se passer à la chapelle d'Aligné parce qu'il y aura une commémoration pour... le décès d'une petite fille de 6 ans qui était tuée par les Allemands le jour de leur départ. Et donc la mairie de Chapelle d'Aligné avec son maire ont décidé de remettre en valeur cette petite fille qui a été décédée, d'autant que son frère habite toujours la Flèche et lui il a raconté donc ce témoignage. Donc nous allons aussi récupérer ce témoignage qui est important. Et puis il y aura Monsieur Potron qui lui va venir nous parler du jour de la libération justement. Il nous racontera comment s'est passée la libération, la chronologie de la journée. Voilà. Et puis j'espère avoir d'autres témoignages entre temps. Voilà.
C'est une histoire qui ne fait que commencer sur Radio Prévert. On a été enchantés de recevoir Bernard André dans ce studio fléchois de la radio. Merci Monsieur André.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Et je suis honoré.
C'est nous, c'est nous. Merci infiniment. Merci Michel.
Merci Jocelyn.